Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il est à mes côtés bien sûr, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Dans notre grand dossier du jour, on va prendre soin de votre cœur et on va s'arrêter notamment en détail sur certaines liaisons dangereuses au quotidien. Par exemple, comment le sommeil ou le trop-plein de stress peuvent avoir un impact néfaste sur votre santé cardiovasculaire. Mais on vous expliquera aussi ce qui, à l'inverse, lui fait du bien à notre cœur, comme l'activité sexuelle ou le sport. Il y a même des conseils pour les non-sportifs, alors restez avec nous. Et donc, pour nous éclairer sur tout ça, nous recevrons le docteur Patrick Assiag. Il est cardiologue en libéral, praticien attaché à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed reviendra sur un accident dramatique, le syndrome du bébé secoué. Il nous expliquera ce qu'il se passe concrètement chez un bébé qui en est victime, mais surtout, il nous donnera ses meilleurs conseils pour le prévenir. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de certaines difficultés rencontrées plus fréquemment qu'on ne le pense dans les couples d'âge mûr.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer aujourd'hui par cette question d'Yvan. On l'écoute.
Bonjour, c'est Yvan de Metz. J'utilise un bain de bouche tous les jours. Et on m'a dit que c'était pas bon d'en utiliser trop souvent et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Du coup, est-ce que c'est dangereux pour moi d'en avoir trop pris ?
Alors Jimmy, vous qui êtes accro au bain de bouche, non je plaisante, pour répondre à cette question de santé dentaire, de santé même bucco-dentaire, on s'est tourné vers le docteur Christophe Lecard. Il est chirurgien dentiste et membre de l'UFSBD, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire.
On distingue deux types de bains de bouche, les bains de bouche à visée thérapeutique et les bains de bouche à usage quotidien. Les bains de bouche à visée thérapeutique sont ceux qui sont prescrits par votre chirurgien dentiste. Ils sont pour une durée limitée parce qu'une utilisation prolongée peut entraîner une déstabilisation de la flore buccale et pouvant même jusqu'à entraîner l'apparition de mycoses parce qu'on a détruit trop de bactéries. Et puis, il y a des bains de bouche à usage quotidien. Ils permettent de limiter l'adhésion de la plaque dentaire sur la surface des dents, parfois enrichie en fluor, donc permettent de lutter contre la formation des caries. Et puis, il y a aussi des bains de bouche à usage quotidien pour traiter les problèmes de mauvaise haleine. Donc, vraiment attention dans le choix de vos bains de bouche, ceux que vous pouvez utiliser tous les jours et ceux qui sont prescrits par votre dentiste, qui sont vraiment pour une durée limitée.
Voilà, c'était le docteur Lecard au micro de Barbara Silvera Sonigo. Alors Jimmy, on va prendre une seconde de question. Celle-ci, elle est pour vous. C'est la question de Pascaline.
Bonjour Jimmy, Mélanie. J'ai l'habitude de mettre de l'aspartame dans mon café car je suis diabétique et je prends également des boissons à base d'aspartame telles du coca ou d'autres boissons. Mais j'ai entendu dire que ça peut être dangereux pour la santé. À votre avis, puis-je continuer à en prendre ou il vaudrait mieux que je prenne du sucre, peut-être moins de sucre au lieu de prendre de l'aspartame? Merci beaucoup.
Jimmy, alors qu'est-ce qu'on sait à ce jour sur les risques éventuels de l'aspartame, cet édulcorant qui est l'un des plus utilisés par l'industrie agroalimentaire, notamment dans tous les produits light?
Exactement, c'est ce qu'on appelle les édulcorants de synthèse, car en fait ils sont issus de la transformation de composés chimiques. Et vous en connaissez d'autres, comme la saccharine ou le sucralose. Alors l'intérêt, c'est qu'ils ont un pouvoir sucrant, si on prend l'aspartame, 200 fois supérieur par rapport au sucre. Mais le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle des molécules vides, c'est-à-dire des non-aliments, car ils ne contiennent aucun nutriment et le corps ne va quasiment pas les reconnaître. Et un des avantages serait qu'il serait peu calorique et donc avec ça, on pourrait peut-être maigrir ou éviter d'avoir des complications du diabète, ce qui est absolument faux et bien démontré.
Et alors, mais quand même pour quelqu'un qui est diabétique, là pour le coup, qui l'est déjà diagnostiqué comme Pascaline, c'est quand même mieux que de manger plein de sucre, de vrai sucre.
Je suis pas sûr parce qu'on fait souvent la fixette sur le sucre dans le café, il pose très peu de problèmes. Si vous prenez un sucre dans un café une ou deux fois par jour, c'est pas dramatique. Ce qui va poser problème, c'est que lorsque vous prenez de l'aspartame, eh bien cet aspartame va donner un goût sucré. Le problème, c'est que votre organisme se rend compte que vous essayez de le trahir et que vous lui mentez, puisque finalement, il n'y a pas d'élévation de la glycémie. Et donc finalement, après le repas, étant donné que vous avez pris du faux sucre, eh bien votre organisme va vous dire « Mais finalement, moi, j'ai pas eu mon shoot de sucre.
J'en veux encore.
J'en veux. » Et donc, par conséquent, vous allez manger beaucoup plus et déséquilibrer votre diabète. Donc moi, je préfère du vrai sucre. Et on peut changer le sucre blanc contre d'autres types de sucre. Vous avez le sucre roux, par exemple, ou le sucre de coco, qui sont plus riches en fibres et en nutriments que le sucre blanc, ce qui permet notamment de faire attention à sa santé plutôt que de prendre ces cochonneries.
D'ailleurs, alors, ces cochonneries, vous les appelez carrément comme ça, on y va carrément, Jimmy. Certains les prennent, alors pas parce qu'ils sont diabétiques, mais justement pour maigrir. Donc là non plus, c'est pas une bonne idée. Ça entretient le goût du sucre et quelque part, peut-être on mangera d'autres trucs sucrés.
Et on mangera beaucoup plus. Des études ont montré justement chez des jeunes à qui on proposait soit des boissons sucrées, un vrai cola sucré, soit des boissons avec des édulcorants, des boissons light. On leur fait boire exactement la même quantité et puis après on les laisse manger. Et bien on s'est rendu compte que les personnes qui vont consommer ces édulcorants vont manger beaucoup plus et vont favoriser la prise de poids. Et en plus de ça, je ne vous ai même pas parlé des effets notamment sur le microbiote.
Alors justement, je sais que c'est un sujet que vous adorez. Qu'est-ce qu'ils font ces édulcorants à notre microbiote, à notre flore intestinale?
Eh bien ils vont perturber votre microbiote. Et on le sait notamment chez la souris, on a pris des souris qui étaient alimentées avec ces édulcorants. On a pris leur microbiote, c'est-à-dire leur flore intestinale, qu'on a transférée à des souris qui allaient bien. Eh bien, on s'est rendu compte que les souris qui allaient bien, à qui on a donné le microbiote, de souris qui mangeaient des édulcorants, eh bien, avaient une glycémie plus élevée que les autres. Ça veut dire que ça perturbe votre flore intestinale et on sait que le microbiote, c'est pas simplement le fait de digérer, parce que naturellement, on se dit microbiote égale
notre
digestion.
Notre deuxième cerveau.
Exactement. Et ça va être, avoir un impact majeur sur d'autres maladies. Un microbiote perturbé, c'est plus d'obésité, plus de diabète, plus de maladies cardiovasculaires. Donc finalement, pour votre santé, essayez d'éviter ça, car d'autant plus, vous l'avez dit en préambule, Mélanie, le saccharose, tous ces édulcorants, eh bien, ils sont présents dans l'industrie agroalimentaire. Et en compensation, vous allez moins bien manger, car vous allez en plus manger des nutriments qui sont de plus faible qualité, de moins bonne composition. Donc pour votre santé, évitez au maximum ça. Moi, je préfère un vrai sucre, une vraie pomme, plutôt que ces cochonneries.
Des pâtisseries avec du miel, par exemple.
Pourquoi pas, c'est exactement. Je préfère un peu de miel que de vous leurrer avec ces saccharoses qui vous donnent bonne conscience et qui vous disent bah tiens, finalement, comme j'ai pris mon édulcorant, peut-être que je peux manger cette pâtisserie. Eh bien, non. Prenez un petit morceau de sucre, un petit peu de miel et puis.
Et la pâtisserie.
Allez, et la pâtisserie.
On prend le
une
tout.
Pâtisserie.
Merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, dans son rendez-vous, prenez votre cœur à cœur. C'est le titre du livre de notre invité, le cardiologue Patrick Assiag. Il va nous donner tous ses meilleurs conseils pour chouchouter notre santé cardiovasculaire. Et vous allez voir, ça passe notamment par notre sommeil et notre vie sexuelle. Et oui, on va tout vous expliquer. Et c'est sur Europe 1.
Son rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. Bienvenue docteur Patrick Assiag, bonjour.
Enchanté.
Vous êtes cardiologue en libéral, praticien attaché à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et vous êtes également le co-auteur du livre avec le docteur Jacques Fricker. Donc le livre c'est Prenez votre cœur à cœur qui est paru chez Odile Jacob. Ça sera donc notre sujet cet après-midi avec vous. On va commencer par ce que vous appelez les liaisons dangereuses et notamment le lien entre sommeil et santé cardiovasculaire, bien dormir. Alors on sait, hein, c'est important pour être en forme en général, mais le lien avec le cœur, il est vraiment prouvé comment ça fonctionne?
Bah écoutez, on sait qu'on a besoin entre 6 et 9 heures grand maximum de sommeil, pas plus en fait, donc pas moins de 6 heures et pas plus de 9 heures en fait, donc on va dire entre 7 heures et 8 heures de sommeil suffisent largement. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que le manque de sommeil entraînait des perturbations notamment biologiques au niveau des hormones qui faisaient en sorte qu'il y ait, si vous voulez, un défaut de sécrétion de certaines hormones et un défaut de sécrétion notamment au niveau de la mélatonine faisant en sorte qu'on puisse, et on appelle ça nous le syndrome d'apnée du sommeil, hein, parce que lorsqu'on arrête de respirer dans la nuit, ce syndrome-là peut provoquer des anomalies cardiovasculaires, notamment à type d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, d'arythmie et de poussée hypertensive.
Et si on dort peu, on a plus de risques d'avoir des infarctus, des AVC.
Exactement.
Ça a été montré dans des études
Ça a été démontré dans les petits dormeurs de nombreuses études. Et actuellement, même ce syndrome d'apnée du sommeil est considéré comme un facteur de risque à part entière, de la même manière que le diabète, le cholestérol, l'hypertension ou le tabac.
Alors, on reviendra sur le syndrome d'apnée du sommeil un peu plus tard. Mais du coup, si on dort mal, on peut faire souffrir notre cœur et on peut, par exemple, je ne sais pas, avoir de l'hypertension artérielle indépendamment de l'apnée du sommeil?
Oui, indépendamment de l'apnée du sommeil, si on dort mal, si vous voulez, on peut faire en sorte que ce défaut ou cet excès de libération d'hormones entraîne, principalement, bon, c'est un excès en fait, un excès de libération d'hormones entraîne, si vous voulez, la poussée hypertensive. Et on sait très bien que les poussées hypertensives surviennent sous-temps entre 4h et 7h du matin, en fait, moment où surviennent le déclenchement d'un infarctus du myocarde ou d'un accident vasculaire cérébral.
Donc c'est plus dangereux pour ceux qui souffrent déjà d'hypertension, de peu ou mal dormir?
Alors ça peut être ceux qui souffrent déjà, mais ça peut être également un révélateur. un révélateur de poussée hypertensive. Poussée hypertensive sur un cœur fragile qui peut entraîner un infarctus du myocarde.
Et du coup, est-ce que vous interrogez des patients qui ont une hypertension artérielle mal équilibrée, leur demandant, mais tiens, avant de vouloir vous augmenter vos médicaments, combien d'heures vous dormez par nuit? Parce que ça paraît contre-intuitif, hein, qu'un cardiologue s'intéresse à votre sommeil. C'est peut-être la première fois que j'entends ça.
Alors, c'est peut-être la première fois, mais pour nous, c'est très fréquent. Parce que on sait que lorsqu'on a une hypertension artérielle résistante, c'est-à-dire que vous avez trois médicaments, vous dites, bah, c'est bizarre, ce patient a trois médicaments, je trouve toujours au cabinet ou lorsqu'ils font une automesure, on développera peut-être la technique de l'automesure après, cette tension reste toujours élevée au-delà de 170-180 mm de mercure. C'est bizarre. Et lorsqu'on les interroge, on se rend compte que le matin, ils sont fatigués au réveil, qu'ils ont tendance à somnoler et à faire une sieste dans l'après-midi et qu'ils sont, si vous voulez, avec des ronflements la nuit, souvent évoqué par le conjoint, et on fait donc assez rapidement le diagnostic d'apnée du sommeil, on va les appareiller, et à la suite de l'appareillage, ils stabilisent leur tension.
Donc, quand on manque de sommeil, on perturbe bon, tout l'organisme, ça on l'a compris, mais donc on perturbe aussi le fonctionnement du cœur, parce qu'il ne faut pas oublier que même quand on est en plein sommeil profond, bah, heureusement d'ailleurs, le cœur, lui, il ne s'arrête jamais de bosser. La nuit, le cœur, il sécrète lui-même des hormones, qu'est-ce qu'il fait la
exactement,
nuit, le cœur?
Exactement, c'est cette sécrétion d'adrénaline, si vous voulez, qui entraîne cette poussée de tension et cette hyperactivité qui fait en sorte qu'on peut déclencher et provoquer une maladie cardiovasculaire. C'est par ce processus-là, en fait.
Et puis, on oublie que lorsqu'on synthétise de la mélatonine, pour les gens, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, mais c'est une hormone qui est antioxydante. C'est une hormone anti-inflammatoire, en quelque sorte. Et puis, mine de rien, la nuit, on synthétise aussi l'hormone de croissance. Et donc, on répare nos tissus la nuit. C'est pas simplement l'hormone qui sert à faire grandir les enfants. Et on le sait, les travailleurs de nuit ont des tensions artérielles un peu plus élevées que ceux qui ne travaillent pas la nuit. Donc, il faut être prudent. Et du coup, quels conseils on peut donner justement aux gens pour essayer d'avoir un sommeil un peu réparateur?
Alors, le sommeil réparateur, c'est en fait essayer. Alors, il y a plusieurs possibilités de les aider. Un, leur dire, premièrement, manger de façon équilibrée. Ça, je pense que vous avez rencontré Jacques Friquet la semaine dernière ou la semaine d'après. Il vous a donné tous les conseils pour une alimentation équilibrée. Deuxième chose, arrêter de fumer. Troisième chose, en fait, il y a donc l'Institut du Canada qui a formulé une dizaine de conseils justement pour bien dormir, c'est-à-dire dormir toujours à la même heure. Se lever, surtout tôt le matin, en fait, parce que les gens ont tendance à se lever un peu plus tard. Faire en sorte que avant de dormir, vous puissiez être relativement apaisé. Éviter, si vous voulez, l'activité physique le soir. Il y a souvent des gens qui aiment bien faire une activité qui va exciter, en fait, entrer une excitation au niveau de l'organisme qui n'est pas bon parce que ça va retarder le sommeil. Et enfin, essayer dans la journée d'avoir une journée relativement calme, d'éviter le stress dans la journée et de faire en sorte que vous puissiez, lorsqu'il y a un stress vraiment important, soit utiliser certains médicaments, et ça je pense que c'est une question que vous allez peut-être me poser, mais surtout avoir l'aide d'un accompagnateur pour le stress, pour éviter justement d'avoir ce stress prolongé qui perturbe le sommeil.
Alors justement, vu qu'on parle du sommeil, si jamais vous avez des questions ou des interrogations, allez sur le site du réseau Morphée, vous trouverez plein de conseils justement pour apprendre à bien dormir. Et d'ailleurs, il y a un article qui vient de paraître sur le fait de pouvoir mieux dormir en ayant une couverture lestée.
C'est
une couverture
qui est un peu plus
lourde.
J'ai vu ça sur Internet, ça a l'air sympathique en plus, je trouve.
Mais oui, des couvertures en gros qui vont peser un peu plus lourd, vous vous sentez un peu enveloppé.
Un peu contenu, hein,
exactement.
C'est ça.
Et les études montrent que vous allez mieux dormir, vous allez augmenter votre temps de sommeil, donc c'est des petites choses un peu tout simple, mais qui vont peut-être améliorer votre qualité de vie.
Pour mieux dormir, docteur, parfois il suffit de perdre quelques kilos aussi, je crois. Et ça, vous, d'un point de vue cardiovasculaire, vous adorez ça, qu'on s'allège un petit peu, non?
Écoutez, c'est justement le rapport qu'on a eu tout à l'heure avec le syndrome du sommeil. On sait que ça survient souvent chez des patients, souvent des hommes, et qui ont une surcharge, voire une obésité, en fait. Donc le fait, si vous voulez, de perdre du poids va faire en sorte que vous auriez un sommeil réparateur. Et nous, si vous voulez, on utilise de plus en plus cette formule pour nos patients, c'est-à-dire manger de façon équilibrée et bouger. Enfin, c'est manger, bouger, c'est même le site
du gouvernement
actuellement,
France, ouais.
Qui le manger, bouger marche très, très très bien, et nous aussi on l'utilise avec Jacques Fricard.
Alors du coup, en France en tout cas, quand on a des troubles du sommeil, naturellement, on se trouve vers les somnifères, les anxiolytiques, mais là encore, je crois que pour la santé cardiovasculaire, c'est pas terrible. Est-ce qu'on sait s'il y a un impact de la consommation de ces médicaments sur notre cœur, tout simplement?
Alors, on sait surtout qu'il y a un effet, si vous voulez, sur les troubles de la mémorisation, en fait. Et on aura tendance, si vous voulez, à ne pas proposer aux patients, surtout quand ils avancent en âge, de prendre ces somnifères de façon prolongée. Donc, on propose, si vous voulez, des somnifères de façon courte, parce que, bien entendu, on a des périodes de stress ou de fatigue qui vont être entre 8, 10, 15 jours ou 3 semaines. Donc, on utilisera ces somnifères de façon, on va dire, en période courte, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une sorte d'accoutumance et après qu'il n'y ait pas une sorte de trouble du sommeil qui peut, de la mémoire, pardon, qui peut éventuellement entraîner tout ce qu'on appelle
de façon tout à fait désagréable à la fois des chutes chez les patients âgés et une perte d'autonomie.
Et juste, je complète avec ça, Mélanie, si jamais vous avez des troubles du sommeil, avant de vouloir prendre des médicaments, demandez-vous pourquoi vous ne dormez pas. Et ça, finalement, lorsqu'on sait quelle est la cause de l'insomnie, ben finalement, on arrive à dormir. Et malheureusement, souvent, nous, médecins généralistes, et je m'inclus dedans, on a une prescription avec la main un peu trop lourde sur les anxiolytiques, car ça prend un peu moins de temps que de discuter. Donc voilà, essayez de trouver l'origine du problème. Souvent, ça passe un peu mieux.
Alors, vous l'avez un petit peu amorcé tout à l'heure, autre liaison dangereuse, stress et cœur. Mais vous parlez de quel stress? Parce qu'en ce moment, là, depuis un an, on est tous un peu stressés à cause du contexte sanitaire. On va dire, c'est ce stress-là qui fait du mal à nos cœurs, à notre cœur et nos vaisseaux.
Le stress, finalement, est un phénomène de société. Deuxième chose, le cœur, si vous voulez, fait partie des facteurs de risque à part entière. J'ai évoqué le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Tout ça, ce sont des facteurs de risque. Donc, le stress rentre dans les facteurs de risque. Et moi, j'ai malheureusement eu un patient dernièrement, 39 ans, stress important à son travail. Uniquement quelques cigarettes par jour, qui a fait un infarctus du myocarde à 39 ans. Donc, si vous voulez, le stress, si vous voulez, intervient à part entière comme un facteur de risque isolé, mais souvent associé à un autre facteur de risque. Donc, dans le stress, il y a trois phases. Une phase, si vous voulez, d'apparition du stress. Une phase, si vous voulez, qui va nous ennuyer, mais qui va nous renforcer parce que ce stress va être stimulant. Mmh. Et malheureusement, la troisième partie, c'est l'épuisement. Et ça, on veut absolument éviter l'épuisement.
Merci, docteur Assiag. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, on revient dans un instant sur l'impact justement du stress sur notre santé cardiovasculaire. On vous parlera notamment d'un test très simple à faire en ligne pour évaluer à quel point votre anxiété est peut-être nocive pour votre cœur et vos artères. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez bien sûr les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau, il est toujours avec nous, c'est vous, docteur Patrick Assiag. Vous êtes cardiologue libéral, vous êtes également le co-auteur du livre Prenez votre cœur à cœur, qui est paru donc chez Odile Jacob. Alors juste avant, on parlait d'un petit peu de l'impact du stress sur notre cœur et nos artères. Et je vous le disais, le niveau de stress dans la population est sûrement plus élevé en ce moment qu'il y a un an en arrière. Comment on peut évaluer sa situation personnelle, son risque individuel de ce côté-là, c'est-à-dire de cette liaison dangereuse qui est stress et sport?
Alors écoutez, au niveau
et cœur, pardon, pourquoi sport? C'est notre sujet suivant.
Stress et cœur, oui, bien sûr. Alors au niveau de la Fédération française de cardiologie, on a mis en place un questionnaire, bon, qui est ce qu'il est, mais qui évalue, si vous voulez, votre stress à la fois au travail et à la maison. Donc au travail, à partir du vécu, de l'entreprise, de l'organisation du travail, des signes, et à la maison, surtout sur les phénomènes, si vous voulez, d'anxiété qu'il y a en rapport avec, votre couple, les enfants, votre travail.
C'est un test en ligne sur le site de la FFC, Fédération française de cardiologie.
Vous pouvez évaluer votre stress très facilement. Bien entendu, donc, par exemple, à votre travail, si vous n'aimez pas votre travail, bien entendu, vous serez bien entendu stressé. Si vous avez des rapports un peu difficiles avec votre supérieur, vous serez bien entendu stressé. De la même manière, si votre travail ne vous convient pas au point de vue horaire, il y aura du stress. Et bien entendu, si vous avez une sorte de fatigabilité, vous serez également stressé.
Et là, docteur, on remplit quelques questions, il y a quelques items. Et à la fin, ça nous dit, oui, votre situation est inquiétante, allez voir un cardiologue si c'est
exactement,
le cas, si le besoin
exactement,
est.
Exactement, allez voir votre médecin généraliste ou votre cardiologue.
Mais du coup, est-ce que vous pouvez expliquer quel est le lien entre le stress qu'on peut subir tous les jours et notre cœur? Parce que ce n'est pas forcément intuitif pour les gens. On va se dire, bon, j'ai un petit coup de stress, j'ai le cœur qui bat vite, mais ce n'est pas la fin du monde. En quoi est-ce que ça peut être délétère pour notre santé?
Ça peut être délétère parce que ça va, comme vous avez vu, déséquilibrer votre métabolisme hormonal, surtout en fait. Deuxièmement, ça va accélérer votre cœur. Troisièmement, vous allez vous trouver en situation difficile, c'est-à-dire qu'en fait, vous serez déprimé, fatigué. Vous commencerez à avoir un accès moins facile à votre travail, à votre couple. Et tout ceci va faire en sorte que petit à petit, votre tension va monter, votre cœur va s'accélérer. Si vous avez des facteurs de risque associés, ça va aggraver, si vous voulez, comme tout à l'heure, mon patient de 39 ans qui avait uniquement une association tabagique à 10 cigarettes par jour, un stress très important avec des rapports, des conflits avec son patron, et faire en sorte de développer malheureusement un infarctus du myocarde.
Et justement, parce que les gens ne se rendent pas compte que lorsque vous êtes stressé, vous allez avoir du cortisol, l'hormone du stress.
Stress oxydatif permanent.
Exactement,
en fait,
c'est un
dans
stress délétère.
Une inflammation aussi.
Exactement, parce que le stress est nécessaire dans la vie de tous les jours. C'est ce qui nous permet de survivre, soit d'aller à la bagarre si vous avez un léopard en face de vous, soit de fuir.
Ça va, ça, c'est pas
et donc
nécessaire.
Vous allez synthétiser de l'adrénaline, c'est pour justement prendre vos jambes à votre cou et vous en aller. Mais sur le long terme, on sait très bien que ce stress va être délétère. Vous l'avez très bien dit, augmenter votre tension artérielle et on sait que c'est le principal facteur de risque d'accident vasculaire cérébral. Et puis à l'inverse, On a vu, souvenez-vous, lors du confinement précédent, une chute des infarctus du myocarde. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne les détecte pas? Ou est-ce que finalement, les gens font moins d'infarctus? Eh bien, on se rend compte que lorsqu'on est moins stressé, eh bien, on a une tension artérielle qui est un peu plus basse. Et donc, on fait un peu moins d'infarctus. Et on l'a même vu chez les femmes enceintes qui faisaient moins d'accouchements prématurés. Donc, finalement, ce stress du quotidien, dont on pense qu'il est un moteur, bah, finalement, il est délétère. Et donc,
pour la santé globale,
il faut peut-être revoir les choses différemment. Et j'espère qu'avec le coronavirus, on aura appris au moins cette chose.
Qu'est-ce que vous pensez des différentes méthodes justement pour lutter contre ce stress? Aujourd'hui, c'est à la mode, la sophrologie, le yoga, enfin toutes ces choses-là. Est-ce qu'on sait ce que c'est prouvé? Je ne sais pas, peut-être que ça a un effet direct bénéfique sur notre cœur.
Alors, ça peut avoir un effet bénéfique, il faut y croire. Et ces méthodes sont, on va dire, patient-dépendantes. Alors, il y a un patient qui me dit, écoutez, docteur, avec le yoga, je me sens beaucoup mieux.
Mais est-ce qu'on sait si ça ralentit le rythme cardiaque vraiment?
Alors,
si
ça va ralentir le rythme cardiaque dans la mesure où, par exemple, je pense au test de cohérence cardiaque, en fait, qui est assez intéressant, en fait. Hein. Donc, en fait, trois fois dans la journée, vous allez respirer, on va dire, de façon assez ample et lente, pendant cinq fois, sur cinq minutes. Et bien, avec ça, vous allez ralentir votre respiration, faire en sorte que votre cœur se ralentisse, votre tension baisse. Et petit à petit, vous allez retrouver une sorte de bien-être. Et ben, ces petites techniques, si vous voulez, il faut.
Mais il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent le bénéfice
de ça.
Il n'y
a pas de grosses études scientifiques là-dessus. Donc, mais c'est en fait du bien-être, en fait. C'est du bien-être, c'est ce bien-être, il faut le prendre.
Si on prend l'exemple des patients qui ont fait, par exemple, un infarctus ou qui ont des maladies cardiovasculaires, est-ce qu'on leur recommande de poursuivre leur activité, même si elle est stressante? On dit que le travail, c'est la santé, mais parfois c'est délétère, donc. Comment gérer ça?
Alors, c'est un problème de tous les jours, ça, en fait, hein, je ne vous cache pas. C'est un problème de tous les jours et il faut savoir que si, bien entendu, vous avez une situation de travail qui est très stressante, qui nécessite un port de charge lourde et qui risque d'aggraver votre condition cardiovasculaire, il y a le reclassement. Le reclassement professionnel qui se fait de façon tout à fait faisable avec le médecin du travail, en collaboration avec le médecin du travail, le médecin généraliste et le cardiologue.
C'est ce que vous conseillez à vos patients, hein. Alors, pour certains, oui. Hein.
Pour certains, oui. Pour d'autres, pas du tout. Ils ont un travail au bureau qui leur permet de s'épanouir. Et ça, on leur conseillera, bien entendu, de poursuivre ce travail jusqu'à la retraite. Et bien entendu, en sachant que lorsqu'on a fait un infarctus du myocarde, il y a, si vous voulez, en post-infarctus du myocarde, ce qu'on appelle, nous, de la réadaptation cardiovasculaire, qui permet au corps de reprendre, en fait, son contenu, en fait, avant l'infarctus, de reprendre, si vous voulez, des bons réflexes, faire en sorte qu'il y ait une appropriation de l'activité physique sur l'organisme, de mieux manger, de se réapproprier, si vous voulez, ces médicaments, et de faire en sorte qu'on ait une sorte d'éducation thérapeutique qui leur permet de continuer à vivre normalement, voire mieux, puisqu'en fait, ce patient aura fait certes un infarctus du myocarde, il sera mieux surveillé, il aura un traitement adapté et il saura mieux vivre au long cours.
Docteur, on parle du travail, j'en profite. On sait que le risque cardiaque, on va dire, lié au travail en population générale, il est surtout important pour ceux qui ont un travail très sédentaire, un travail de bureau par exemple. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour prendre soin de leur cœur?
Par exemple, lorsqu'on a des réunions très très longues, au bout de 2-3 heures, essayer de marcher, essayer de se détendre, éviter la station assise prolongée. Deuxième chose, bien entendu, sinon pas la possibilité d'aller dans une salle de sport actuellement, comme vous savez, c'est très limité, de marcher le plus possible, au moins 30 minutes par jour. Lorsqu'ils prennent le métro, de s'arrêter un métro avant et de faire
marcher,
le chemin de le parcours de la station jusqu'à sa domicile. Lorsqu'ils ont un jardin, faire du jardinage. Lorsqu'il y a d'autres possibilités de marcher.
En gros, bouger partout, si vous ne pouvez pas le faire au bureau. Quoi.
Voilà, c'est bouge mon cœur, en fait. Hein.
Oui, parce que parfois, on oublie, on pense que faire du sport, c'est faire un marathon ou aller à la piscine. Mais la première des activités physiques, c'est de marcher. Il faut les recommandations, les rappeler, c'est 10 000 pas par jour. Les Français font en moyenne 8 000 pas. C'est pas trop mal. Mais il leur en manque 2 000 pour arriver normalement aux 10 000. Mais ça, c'était avant la crise sanitaire. Donc, vous l'avez très bien dit, le fait de marcher, de prendre le métro, de prendre la trottinette, de jardiner, c'est de l'activité physique. Et les études sont claires. On sait très bien que les personnes qui font 8 000 pas, c'est déjà pas mal. Mais celles qui vont faire 10 000 vont vivre plus longtemps et en meilleure santé. Si vous allez au-delà, si vous allez arriver à 12 000 pas par jour, et bien finalement, vous augmentez votre espérance de vie. Donc, c'est un exercice tout bête. Et pour ceux qui travaillent en horaire décalé, est-ce que là encore, on sait s'il y a un impact du travail de nuit sur sa santé cardiovasculaire?
On le sait de toute façon. Ça y est, il y a eu des études qui ont été prouvées, qui ont montré, bien entendu, qu'il y avait un déséquilibre hormonal lié au travail de nuit, en fait. Et en plus, ce travail de nuit entraîne, comme vous le savez, un défaut de sommeil, une hyperactivité sur le plan alimentaire, un déséquilibre, une prise de poids.
Mais c'est mauvais pour le cœur, directement?
Alors, bien sûr, parce que vous avez des facteurs de risque qui s'associent. Vous avez la prise de poids, vous avez un diabète qui va apparaître, une hypertension artérielle, autant de facteurs de risque qui
se somment. Quand on n'a pas fait le choix, on fait comment?
La sommation de ces facteurs de risque va déclencher un événement cardiovasculaire.
Il y a des gens qui n'ont pas le choix que de travailler de nuit ou en horaire décalé. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller alors? d'avoir un suivi médical plus précis.
Essayez ce reclassement professionnel, si jamais
mais
c'est
pas
possible.
Toujours évident dans la vie de tous les jours. Est-ce que du coup, on les invite par exemple à consulter un peu plus ceux qui nous écoutent et qui peut-être sont en travail en horaire décalé, dire allez, au lieu d'aller voir le cardiologue une fois tous les deux ans, allez-y tous les six mois peut-être. Est-ce qu'il faut être un peu plus prudent?
Alors,
ou ça n'a pas d'intérêt?
Moi, je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut essayer de détecter ces facteurs de risque. Et en fait, ce qui se passe dans la population, et c'est le but, si vous voulez, de notre livre avec Jacques Fricker, c'est d'essayer d'être préventif. Préventif. Vous savez que nous, on fait du soin tous les jours. Mais la prévention, elle n'est absolument pas considérée. On a un défaut de prévention en France. Et moi, je lutte, si vous voulez.
J'essaie de lutter
pour justement faire en sorte que la prévention arrive et nous fasse gagner du temps et fasse gagner des vies humaines.
Docteur Assiag, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Ne bougez pas.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Il est toujours à nos côtés cet après-midi. C'est vous, docteur Patrick Assiag. Je rappelle que vous êtes cardiologue en libéral. Vous êtes également le président du syndicat des cardiologues de la région parisienne. Et donc, on parle de notre cœur. Prenez votre cœur à cœur, c'est le titre de votre livre. Et là, on a une bonne nouvelle à présent. Il y a quelque chose qui est très très bon pour notre cœur. C'est l'activité sexuelle. Alors ça vous fait plaisir de le dire ou c'est prouvé scientifiquement?
C'est prouvé scientifiquement. Hein. Non, c'est prouvé scientifiquement.
Et ça vous fait plaisir.
Ouais.
Bien sûr, c'est les deux, ça se prouve scientifiquement et ça aide le couple, ça libère des endorphines, c'est bon pour la santé.
Ça peut nous faire bouger plus ou moins activement.
Bouger, ouais. C'est considéré comme étant, par exemple, ça peut correspondre à une activité de marche, par exemple, de 4 étages de façon assez rapide.
Ah oui, quand même, pas mal.
4 étages, monter très 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 rapidement peut correspondre à une activité sexuelle. Donc c'est bon pour la santé, il faut la continuer, même après un accident cardiovasculaire, en fait, après un infarctus du myocarde, bien entendu pas le lendemain.
4 étages quand même.
4 étages.
C'est-à-dire que le jour
où
il y a un rapport, on peut marcher un peu moins. C'est ça.
Et dans certains films, on a justement des scènes où, lors d'un rapport sexuel, tout d'un coup, il se passe un événement cardiaque, l'acteur fait un infarctus. Est-ce que c'est des choses qui arrivent vraiment dans la vraie vie?
Alors, c'est exceptionnel, comme vous vous en doutez, en fait, hein, parce que c'est considéré un effort, à faire un effort, en fait, un effort violent, en fait, certes violent. Mais dans des conditions un peu difficiles, souvent.
Dans les films, il y a toujours un vieux méchant qui meurt comme ça. C'est vrai, hein, parce que du coup, on a l'impression que c'est fréquent.
Ce patient devait avoir des facteurs de risque cardiovasculaire, ne pas avoir vu son cardiologue assez récemment, ne pas être traité, vous voyez, en fait. Donc, c'est exceptionnel. Tout à fait exceptionnel.
Alors justement, ça sera le thème de la chronique de Catherine Blanc tout à l'heure à 15h50, mais il faut savoir que les troubles érectiles sont plus fréquents chez les hommes qui ont des problèmes finalement cardiovasculaires. Parfois, c'est même révélateur de ça. Hein, c'est
alors
ça
oui, c'est justement ça. Troubles, on va dire, érectiles chez un patient de 35, 40 ou 40, 50 ans nous incite à rechercher des facteurs de risque et faire une épreuve d'effort pour justement savoir s'il n'y a pas un problème coronaire.
C'est-à-dire, pourquoi ça ne marche pas de ce côté-là
pour
les raisons coronaires?
Parce que, en fait, si vous voulez, il y a un phénomène artériel ici.
Il y a du sang hein, dans la verge, bien sûr.
Et ça peut révéler un problème coronarien et souvent, ça peut faire en sorte qu'on puisse révéler une maladie coronaire précoce, le traiter par angioplastie et pose d'un stent et qui va, bien entendu, régulariser son problème coronaire et puis on adaptera son traitement en donnant un médicament qui va aider.
C'est la panne sexuelle qui vous sauve la vie, en fait.
Ouais,
hein,
en quelque sorte.
C'est pas mal.
En quelque sorte, et il y aura un médicament pour aider la panne sexuelle.
Bah oui, parce que finalement, vous l'avez très bien dit, hein, c'est l'atteinte de la micro-circulation des vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le zizi. Et donc, si les vaisseaux du zizi sont abîmés, c'est que ceux du cœur sont probablement aussi abîmés. C'est pour ça que l'urologue vous enverra assez facilement voir le cardiologue si jamais on a du mal un peu à avoir une petite érection. Et du coup, vous l'avez dit tout à l'heure, on est un peu trop dans le curatif, on aime bien prendre des médicaments, alors que peut-être on pourrait essayer d'éviter certaines maladies. Est-ce que le fait de faire de l'activité physique, de faire du sport, c'est bon réellement pour notre cœur?
Alors, toutes les études l'ont montré, depuis une dizaine d'années.
Mais aussi bien que les médocs?
Ah, Hippocrate disait que la marche est la meilleure médecine pour l'homme. Hippocrate, déjà, dans les années, on va dire, 400 avant Jésus-Christ, en fait. Hein. Et moi, je persiste à dire à mes patients, écoutez, marchez, vous verrez, c'est le meilleur médicament pour votre cœur.
Mais comment ça fonctionne?
Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de façon très, très simple, en fait. Dès que vous avez une activité physique, il y a un flux, si vous voulez, de sang qui se propage au niveau de tout l'organisme, qui va entraîner, si vous voulez, une hyperactivité au niveau de tout l'organisme, au niveau de l'aorte, qui est le gros vaisseau qui va vasculariser tout l'organisme, et faire en sorte qu'il y ait une sorte de relaxation qui se passe. Donc, finalement, les conséquences, si vous voulez, physiopathologiques sur le cœur et les vaisseaux sont énormes. Une marche lente, si vous voulez, de 30 minutes par jour va faire en sorte que vous diminuez votre infarctus du myocarde, le risque d'infarctus du myocarde de 20%. Mais en revanche, une marche rapide d'une heure tous les jours va doubler et vous diminuer de 40% le risque de faire un infarctus du myocarde. Ne serait-ce que la marche. Alors bien entendu, lorsque vous disposez de faire plus que ça, l'OMS propose 3h30 d'activité physique par semaine. 3h30, c'est-à-dire 30 minutes multipliées par 5-6, ça vous fait 3h30. Alors certains patients disent, écoutez, j'ai fait une heure le week-end, c'est bien. Oui, c'est bien, mais c'est pas assez.
C'est mieux que rien, mais c'est mieux que moins rien, que 3h30.
Pas assez. J'ai fait 1h30, si vous voulez, de footing ce week-end, je suis content. Non, c'est pas bien parce que dans la semaine, ils n'ont rien fait.
Faut mieux faire une demi-heure tous les jours, presque,
voilà,
c'est ça.
Exactement.
Hein,
ouais.
Et quel est le plus bénéfique pour la santé? Est-ce que c'est de faire des sports d'endurance ou des choses très courtes avec une haute intensité?
Le bodybuilding comme vous, par exemple.
Bah oui, est-ce que si je fais une petite session de musculation que je ne ferai jamais, je vous rassure Mélanie, de 15 minutes, est-ce que ça va avoir le même effet que si finalement on marchait un peu plus longtemps?
Alors c'est la question qu'on pose tout le temps. C'est mieux les sports d'endurance, vous savez en fait. Alors, c'est les sports d'endurance, ça peut être du vélo, ça peut être la natation, ça peut être
de la marche,
de la marche rapide,
ouais.
Du footing. En revanche, les sports de résistance, en fait, les sports de résistance comme le squash, la musculation, ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils demandent une accélération très, très, très brutale du cœur, et le cœur n'aime pas ça. Il aime bien avoir un effort progressif qui va faire en sorte que petit à petit, il va s'adapter, si vous voulez, à cet effort, le cœur va s'adapter à l'effort, et petit à petit produire, si
il
vous voulez.
Il préfère être sollicité sur le long terme que d'un
exactement,
coup brutalement.
D'emblée
c'est ça.
Comme ça, le sprint, le squash, la musculation, c'est pas très bien. En revanche,
vous risquez rien, Jimmy, au moins.
En revanche, ce qu'on peut proposer, non, c'est du renforcement musculaire.
Ouais, ça, oui, quand même.
Ah, ça, on aime bien. Ouais. Pour le dos, par exemple, pour le dos, pour les muscles, etc. C'est plus difficile à mettre en place. Mais ça rapporte gros.
Mais à partir de quel âge il faut faire du sport d'ailleurs? Parce qu'on peut se dire, j'ai 20 ans.
Jimmy, dès qu'on marche, hein, je crois.
Non, mais est-ce que ça vaut le coup à 20 ans de s'astreindre à faire du sport? Il faut attendre, je ne sais pas, 30, 40 ans.
Vous préférez des week-ends, on va faire des jeux vidéo?
Bah oui, mais d'ailleurs, avec le confinement, on a été derrière nos écrans.
Je vais vous répondre de façon assez abrupte et collégiale à la fois. Il faut le faire à l'âge de 3-4 ans. Et pourquoi actuellement? Pourquoi 3-4 ans? Vous savez très très bien, on a les écrans. Et tous ces jeunes, moi je vois des jeunes de 3-4 ans, 4-5 ans qui sont déjà sur leur plaquette.
Et d'ailleurs, les études montrent que les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Ils mettent une minute de plus pour faire 400 mètres qu'il y a 20 ans. Pas parce qu'ils sont plus mauvais, mais parce que nous aussi, les parents, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant derrière un écran, c'est un parent qui est dans le coin et je me mets dans le lot. Donc évidemment, ça concerne tous les enfants. Ils ont besoin, eux aussi, même lorsqu'il ne fait pas beau, d'une heure d'activité physique. Et donc, on les met dans le jardin. C'est bon pour leur cœur, c'est bon pour les yeux. Et puis finalement, ça va
on
aussi
se met
les
dans
fatiguer.
La voiture, on les fait courir derrière.
Mais oui, et puis ils vont mieux dormir. Mais oui, ils vont mieux dormir le soir. Et puis si on les perd en route, évidemment, on fait marche arrière.
Très bien.
Les écraser, quoi. On les récupère, on les met dans la voiture.
Alors, ce que vous dites, c'est un véritable phénomène de société. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, s'ils ne font pas l'activité physique quand ils sont jeunes, ils n'en feront pas quand ils seront plus âgés. Deuxièmement, ces enfants-là vont prendre du poids. Troisièmement, ils vont risquer de développer un diabète précoce.
Il y en a des jeunes de plus en plus
mais
avec
oui,
du diabète.
Mais bien,
hein,
sûr.
Bien sûr.
Et tout ça, prise de poids, diabète précoce, addiction, et souvent addiction à d'autres drogues, malheureusement, vont faire en sorte qu'ils vont, si vous voulez, abîmer et détruire leur capital, si vous voulez, cardiovasculaire de base et faire en sorte que ça se passera beaucoup moins bien dans les années suivantes.
Là, on parle du préventif, mais qu'est-ce que ça vaut pour finalement les gens qui ont eu un infarctus, qui ont eu un AVC? Là, pour le coup, le sport, ça sera aussi un médicament pour eux? Est-ce que ce n'est pas risqué quand on a déjà fait un infarctus?
Au contraire, au contraire, au contraire. Si vous voulez, il n'y a pas de contre-indication à une activité sportive, physique. Pardon. Sportive, certes, hein, vous n'allez pas faire
c'est du toujours
tennis
mieux.
En compétition, etc. Non, mais activité physique, il n'y a aucune contre-indication, a priori, à l'activité physique de façon prolongée. Et ça sera bénéfique pour le cœur, que vous ayez fait ou pas un infarctus du myocarde.
Un dernier mot, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'acheter les montres connectées qui nous donnent la fréquence cardiaque? Beaucoup de gens s'équipent. Est-ce que c'est gadget ou c'est ça, hein?
Alors, c'est gadget et pas gadget. C'est gadget parce que bon, on peut s'amuser à faire ça, mais c'est pas gadget parce que au moins vous aurez vos 10 000 pas. Au moins vous pourrez surveiller votre fréquence cardiaque à l'effort. Et on sait très bien que c'est 220 mois à l'âge, hein, en essayant de réduire à 70% de la fréquence cardiaque maximale. Non, tout ce qui est en fait montre connectée peut aider dans la mesure où c'est quand même attractif et la population aime bien jouer. Donc, jouons pour le cœur.
Jouons ensemble.
Jouons, si vous voulez, à l'activité physique et prenez votre cœur à cœur.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Assiac, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, je rappelle une fois de plus votre livre, Prenez votre cœur à cœur, donc, qui est publié chez Odile Jacob. Merci encore, docteur.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien avec un focus du docteur Jimmy Mohamed sur le syndrome du bébé secoué, un accident terrible qu'il serait possible de prévenir dans certains cas. Il va tout nous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous tous les jours de 15h à 16h. À présent, on passe à notre chronique Les mots du quotidien avec un éclairage sur le syndrome du bébé secoué aujourd'hui. Un accident dramatique, encore trop fréquent en France et ailleurs. Alors connaissez-vous les conséquences médicales pour ces enfants? Savez-vous qu'il existe des moyens de prévenir cet accident qui peut toucher des parents aimants mais souvent épuisés? Notre journaliste Barbara Silvera Sonigo a été vous interroger sur ce sujet sensible. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Alors le syndrome du bébé secoué, c'est quand on secoue son bébé très violemment.
Parce que le bébé va pleurer, la personne va le prendre, le secouer.
Et ça peut engendrer après la mort du nourrisson. C'est un cas de maltraitance.
Ça touche les enfants qui ont été secoués par mauvais traitement, mauvais parents ou inconsciemment.
C'est entre la naissance et un an.
Je sais que c'est au niveau de la boîte crânienne et du cerveau, du coup, qu'il y a des chocs, qu'il y a des hématomes, etc. Et que c'est hyper grave, quoi. Ça provoque des lésions.
Ça pose un problème après neurologique.
Retard mental ou alors physique, du mal à marcher.
Peut-être une mauvaise coordination des mouvements.
À part la mort, je pense peut-être des séquelles au niveau neurologique ou du développement de l'enfant.
Jimmy, alors c'est un sujet grave, mais sur lequel il est important de faire encore de la prévention, car il y a vraiment beaucoup trop de cas chaque année.
Et oui, et les chiffres sont probablement sous-estimés, car tout n'est pas vraiment diagnostiqué. Alors, d'après les données hospitalières de 2019, on aurait 512 cas probables de bébés secoués, 703 cas possibles, ce qui donne entre 20 et 50 cas pour 100 000 naissances. Et ces données ont été récoltées suite à l'hospitalisation d'enfants de 1 à 11 mois et souffrant notamment de lésions intracrâniennes.
Alors, on est d'accord, mais c'est mieux de le dire pour avoir ce type d'accident. Il suffit qu'un bébé soit secoué, même juste quelques secondes.
Exactement. Alors, le syndrome du bébé secoué, ça se produit lorsqu'un adulte va secouer violemment un enfant en le tenant par le tronc, les épaules ou même les extrémités. Lorsqu'un bébé est secoué, en fait, sa tête va être projetée dans tous les sens. Et on sait très bien que celle-ci est proportionnellement beaucoup plus lourde que celle d'un adulte, alors qu'ils ont des muscles au niveau du cou qui sont beaucoup plus faibles. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a un espace entre la boîte crânienne et le cerveau qui est un peu plus large. Et donc, finalement, ça va flotter dans tous les sens. Et on sait très bien que le cerveau est encore un peu plus mou, un peu plus fragile. Donc, plus propice notamment aux saignements et aux lésions intracrâniennes qui vont survenir suite à cet événement.
Alors, néanmoins, on va quand même rassurer les parents qui nous écoutent. Il s'agit de secousses fortes, hein. C'est pas juste parfois prendre son enfant, le faire un peu sauter sur ses genoux, c'est pas ça. Hein.
Évidemment, jouer avec votre enfant sans problème, hein. Il peut même tomber.
Il faut éviter, mais
survient vraiment dans des accès violents et parfois répétés, même une seule fois peut suffire. Mais encore une fois, si vous jouez avec votre enfant, si chahute un peu entre frères et sœurs, ça c'est pas très grave. Là, on parle vraiment d'un mouvement assez stéréotypé, comme on peut le voir notamment dans certains films.
Quelles sont les conséquences pour ces enfants sur le plan médical? Vous avez décrit un peu des lésions intracrâniennes, mais c'est quoi exactement?
Alors c'est dramatique, hein, parce que le syndrome du bébé secoué peut entraîner tout simplement la mort de l'enfant. On estime qu'un bébé secoué sur 5 va décéder et parmi les survivants, 2 sur 3 auront des séquelles permanentes et certains bébés secoués pourront rester par la suite paralysés ou malheureusement handicapés à vie.
Alors Dimitri, ce qu'on vient de décrire, ça paraît évidemment juste horrible dit comme ça, mais vraiment, il faut rappeler, c'est important, que ça peut toucher n'importe qui, pas besoin d'être un parent maltraitant, chronique je peux dire. C'est souvent en fait finalement l'épuisement, les pleurs répétés non calmés qui sont le déclencheur. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour prévenir cet accident?
S'il y a une seule chose à retenir, évidemment il y a des parents tordus qui vont maltraiter leur enfant et malheureusement nous on pourra rien pour eux, c'est la justice qui devra s'en occuper. Mais ça nous est tous arrivé à un moment d'être à bout. Soit parce qu'on est fatigué, parce qu'on a du mal à dormir, ou parce qu'on est seul, ou parce qu'on vit une situation difficile, notamment en période de coronavirus. Et parfois, les pleurs du bébé deviennent insupportables et on a une intolérance à ces pleurs. Dans ces cas-là, ne vous braquez pas, laissez l'enfant pleurer. Laissez-le dans la chambre à côté.
Un peu loin de vous,
loin
dans
de
une
vous.
Autre
c'est
pièce.
Pas grave. Voilà. Laissez-le pleurer 5-10 minutes. Allez prendre une douche, allez écouter de la musique, appelez à l'aide, appelez vos voisins, leur disant écoutez, s'il vous plaît, pendant quelques minutes, occupez-vous de l'enfant. Vous allez redescendre en pression et finalement, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si grave. Parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, une seule fois suffit. Donc, demandez de l'aide et vraiment, encore une fois, mieux vaut le laisser pleurer 5 ou 10 minutes car tous les enfants qui ont été secoués ne sont pas faits par des parents qui sont tordus.
Alors malheureusement, parfois, c'est aussi une tierce personne. Très rapidement, Jimmy, comment on reconnaît un bébé qui a été secoué?
Il n'y aura pas forcément de signes visibles, hein, mais ça va être un enfant qui va être irritable, somnolent, qui va vomir, qui va avoir des convulsions, qui va avoir du mal à respirer, qui va être un peu confus. Dans ces cas-là, évidemment, on appelle le 15, n'hésitez surtout pas.
Merci beaucoup, Jimmy, pour tous ces conseils et ce message de prévention très, très important.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1. Ça fait du bien, de la bonne musique sur Europe 1. C'était le dernier, Clara Luciani. Le titre, c'est le reste.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, bien sûr, c'est sur Europe 1. Vous êtes avec nous depuis 15h pour cette ultime séquence de l'émission. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va répondre à la question de Liliane. Je vous la lis. Mon mari a 63 ans et c'est pas toujours facile pour lui d'avoir un rapport sans prendre du Viagra. Je sais qu'avec l'âge, ça se complique, mais j'ai l'impression que je ne l'excite plus et ça me vexe un peu, je dois dire. Est-ce que je devrais lui en parler ? Catherine, on le sait, hein, le Viagra, bon, à cet âge-là, bah, ça peut être utilisé, pourquoi pas ? Ça peut être une béquille comme
et
une autre.
Et ce n'est pas inéluctable. Voilà. Hein, mettons pas ça systématiquement chez les hommes. Hein. Les hommes, on peut vieillir très tranquillement avec
des érections. Il y en a qui n'en ont pas besoin, c'est ça ?
Absolument.
C'est pas obligatoire.
Bien
en fait,
sûr
c'est ça.
Que non, bien sûr.
Pourquoi elle le prend pour elle personnellement ? C'est une défaillance physique de ce monsieur, elle n'y est pas pour grand-chose en fait.
Eh bien, parce que c'est pas spécifique à cette histoire-là, c'est vrai d'une façon générale. Les femmes ont tendance à penser que l'érection est l'affirmation de leur capacité à être érotique, être sexy, etc. Une évaluation de leur qualité. C'est-à-dire qu'un homme serait à l'état flaccide et à peine une femme passe, pouf, il bande. Si d'ailleurs tel était le cas, ils sont des agresseurs parce qu'ils bandent dès qu'on passe. Donc c'est insupportable. Donc en fait, c'est toute l'ambivalence féminine qui se gratte contre là. C'est le besoin d'avoir un pouvoir sur ce pénis et par son seul sex appeal. Or, évidemment que c'est une histoire de relation. Évidemment que cette femme vient apporter des possibilités, mais l'homme reste toujours aux commandes, bien inconsciente malheureusement pour lui, de son pénis, à savoir de sa propre fantasmatique, de sa physiologie, de ses inquiétudes liées à plein de choses. Et puis après, il y a la relation, comment la relation s'établit, est-ce qu'elle se réinvente ou est-ce qu'elle s'endort. Et du coup, évidemment, avec une fragilité un peu du point de vue physiologique, eh bien, chemin faisant, c'est un peu plus difficile.
Mais elle a qu'à l'accompagner chez l'urologue ou le médecin traitant pour savoir que cette dysfonction érectile, le fait de ne pas avoir d'érection suffisante, n'est pas liée à un manque de désir. C'est que malheureusement,
c'est
avec
naturel,
l'âge,
c'est fréquent.
C'est comme
ouais.
ça, pour un peu qu'il soit diabétique, qu'il ait des problèmes qui vont favoriser une dysfonction érectile.
Des problèmes cardiovasculaires,
ouais,
par
exactement,
exemple.
Exactement, elle va comprendre que finalement, bah, ce n'est pas de sa faute, c'est quasiment pas une maladie, mais voilà, et que le Viagra.
Oui, une
Viagra
conséquence d'une fragilité, bien sûr.
Donc peut-être l'accompagner.
Bien sûr, ne serait-ce que s'informer, parce que en fait, c'est très narcissique cette question. C'est vraiment une fragilité personnelle. Qui ne peut pas accepter la fragilité de l'autre parce que j'ai besoin, je me suis construite, et certaines femmes sont comme ça, sont construites dans la relation avec un homme qui leur est apparu tout puissant, réparateur d'elles-mêmes, sécurisant pour elles-mêmes, tant socialement, financièrement, sexuellement, par leur désir. Et là, tout d'un coup, quand le bas blesse, eh bien, il y a une idée d'une remise en question personnelle. C'est-à-dire qu'elles ont été sécurisées par le désir et dès lors que le désir n'est plus, c'est comme si elle avait perdu quelque chose, alors que c'est bien chez lui que les choses se passent ainsi.
Et pour la rassurer, d'ailleurs, peut-être, il faut aussi peut-être lui expliquer que le Viagra, certes, ça met la machine en route, on va dire, mais il faut quand même qu'il y ait un désir au départ.
Il faut qu'il y ait un starter, il faut qu'il y ait une étincelle.
On dit, mais non,
alors, ceci étant, je ne suis pas sûre que ça la rassure parce que du coup, elle se poserait la question, pourquoi n'aurait-il pas de désir pour moi ? Ce serait double peine. C'est-à-dire, si pour que le Viagra fonctionne, il faut qu'il soit en désir. Pour qu'il soit en désir, elle va se poser la question si elle n'est pas désirable. Dans un premier temps, elle a besoin de penser que le fait qu'elle passe devant lui, elle est excitante. Mais si en plus on lui
que
dit...
Ce que moi je voulais dire, en tout cas, c'est que si ça fonctionne avec du Viagra, c'est qu'elle doit bien l'exciter un peu quand même. Parce que sinon, ça ne fonctionne
pas. Ah pardon,
s'il n'y a pas de désir. Voilà,
je n'avais pas
compris, je crois.
Voilà, excusez-moi. Oui, je n'avais pas effectivement compris. Oui, en effet, si à partir du moment où il prend du Viagra, son érection est, c'est tout à fait qu'il est aidé par le Viagra sur l'expression de son désir qui est tout à fait au rendez-vous. Et donc, effectivement, elle n'a pas à s'inquiéter.
Il faut peut-être aussi se dire que sans Viagra, il n'y aurait plus du tout de relation sexuelle. Peut-être aussi, ce serait encore pire et qu'il faut voir le côté positif. Et je ne sais pas, elle ne va pas lui faire faire un test en lui mettant devant un porno et voir que ça ne marche pas. Non, c'est pas...
Vous allez chercher ça.
Non, mais je me dis pour se dire que finalement, c'est un problème mécanique, en fait, que ce n'est pas lié à l'excitation. C'est que peu importe la personne qui est en face de lui, c'est juste qu'il ne peut pas bander parce qu'il n'a pas de Viagra et qu'avec ça, il peut avoir des rapports sexuels. Et donc, ça me tient à cœur, tout ça.
C'est heureux, je sens. Vous défendez ce monsieur, c'est
bien. Non, mais bien sûr. Alors là, nous parlons de quelqu'un dont nous supposons une pathologie physiologique à l'origine, bien sûr, de sa prise de Viagra. Maintenant, il y a aussi des hommes qui prennent du Viagra pour aider à une érection, mais il y a une autre problématique qui est plus d'origine psychologique et peut aussi être d'origine relationnelle. Donc ça aussi, ça peut s'interroger. Mais là, nous n'avons parlé que du point de vue du temps qui passe et de la fragilité physiologique qui fait le besoin d'un Viagra. Eh bien, welcome au Viagra et autres substances, il n'y a pas que le Viagra, mais qui permet effectivement de faire les rendez-vous et profitons des rendez-vous plutôt que de mesurer une défaillance.
Très bien. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Tout de suite, historiquement vôtre avec Mathieu Noël et Stéphane Bern. Bonjour Stéphane, bonjour,
bonjour
Mathieu.
Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie.
Oh, je suis sûr que vous aussi, vous avez eu un prof qui a changé votre destinée.
Ah, oui.
Merci monsieur le professeur.
Moi un j'ai prof... eu Stéphane.
Oui, ben non. Là, c'est Nicolas Copernic. Il a eu un prof en Italie qui a changé sa vision du monde et des astres. Georges Brassens, aussi son prof de français qui lui a dit d'écrire. Et Guillaume Musso, alors il a...
Guillaume Musso, votre écrivain préféré, Stéphane. Oui, oui. Ici, il s'est mis à écrire. C'est grâce à un professeur qui avait organisé un concours de nouvelles dans son lycée. Et il l'a remporté, il l'a encouragé à se lancer. Pour le meilleur, on adore Guillaume Musso.
Bon, ben, j'adore cette thématique. Vous savez quoi, j'ai passé un petit bonjour à Madame Fajol, qui était ma maîtresse de CP, qui a marqué ma vie. Allez, gros bisous, si Madame Fajol. Et surtout, restez sur Europe.
Comme quoi, vous avez un cœur.